se passe au début de la paracha, c'est quelque chose d'assez étrange, en fait, parce que le texte dit, Vaidaber Hachem, c'est Hachem qui parle à Moshe Rabbeinu, comme d'habitude. Et justement, ça ne se passe pas comme d'habitude. Parce qu'Hachem donne chez nous dans le texte, c'est marqué, Shlach lecha anashim, envoie pour toi. Le cha, c'est, on entend le cha de l'echlecha. C'est pour toi. Dans le cha, c'est pour ton bien. Ici, est-ce que le cha, il est pour le bien de Moshe? Pas tellement, quoi. Le cha, il ne faut pas l'entendre comme ça. Le cha, ça veut dire, moi, je ne te dis pas de le faire. Moi, je dis, le da'atra. C'est toi qui penses que c'est bien d'envoyer les explorateurs. Ani eni metsavé lecha. Moi, je ne te l'ordonne pas. Mais c'est intéressant ce que Rashi raconte parce qu'on voit rien de tout ça dans le texte. Dans le texte, c'est marqué, Hachem lui dit, envoie des gens. Ish echad le maté avotav, tu vas envoyer une personne par tribu. Les gens que tu vas envoyer, c'est les princes de tribu, les chefs des tribus. Et Moshe l'a fait. On a l'énumération de ces gens. Ils sont tous des gens super, quoi, a priori. Et Moshe les envoie pour espionner le pays de Canaan. Il leur dit comment il faut entrer dans par le sud, etc. Et il leur dit, ben, vous allez voir ce pays, cette terre, vous allez voir, est-ce que le peuple qui habite sur cette terre, est-ce que c'est les gens forts ou faibles, est-ce qu'ils sont dans des villes fortifiées ou pas? Est-ce que la terre est une terre grasse, donc riche, ou bien une terre trop sèche, hein? Et puis vous nous ramènerez un peu des fruits de cette terre pour qu'on voit un peu quel genre de fruits, etc. Ils l'ont fait. Ils ont fait un circuit de 40 jours et quand ils reviennent, ils reviennent avec des fruits extraordinaires. On n'a jamais vu des fruits comme ça après, on est en Israël non plus. Et ils reviennent, Vayelchou, au verset 26, ils reviennent chez Moshe et Aaron. Et Kol Adat Bnei Israël, et toute la communauté témoignante des Bnei Israël, et Vayashivu Otam Davar. Et ils font leur rapport. Et devant tout le monde, et ils ont montré les fruits du pays. Vayisaprulo, et ils ont raconté, voilà, Banuel et la Hares Asher Shlachtanu, nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés, Vegam Zavat Chalav Udvash, c'est une terre où coule le lait, le miel, et voilà le fruit extraordinaire. Donc jusqu'à ce moment-là, ils sont en train de faire un éloge d'Eretz Israël, non? Et là, on a vraiment l'impression que c'est Hachem qui leur a ordonné, il a ordonné à Moshe de choisir des gens, de les envoyer, etc. Mais si on regarde au début du Sefer Dvarim, il y a ce Moshe Revi, voilà, à la quatrième montée. Ça, c'est déjà un peu trop sévère. Ah non, c'est un autre. C'est. C'est Moshe Rabbeinu qui dit au Bnei Israël, au verset 20 du chapitre, du premier chapitre du Sefer Dvarim. Dans cette édition que j'ai, c'est la page 1000. Et Moshe dit au Bnei Israël, enfin, il leur dit, voilà, Ré, Nathan, Hashem Elokecha, Lefanecha et Haaretz. Tu vois, voilà, Hashem t'a donné. Enfin, vous a donné cette terre, allez, rêche, allez-y, héritez-en, enfin, conquérez-la, prenez-la. Comme Hachem vous l'a dit, ne craignez rien. Et à ce moment-là, mon cher Abénou, on est dans Sefer Dvarim, c'est-à-dire que mon cher Abénou, c'est le Dvarim, c'est le testament de mon cher Abénou, bien sûr. Tout le Sefer Dvarim, c'est par opposition aux quatre autres Svarim. Dans Dvarim, c'est Moshe qui parle. Dans les quatre Svarim, c'est Hachem qui parle par la bouche de Moshe, mais c'est Hachem qui parle. Ici, dans Dvarim, c'est Moshe qui parle. Et il est en train de leur faire des tochachot, il est en train de leur faire des remontrances. Vatikruvun elai kulchem. Vous êtes approchés de moi tous, vous tous. Vatomru, et vous avez dit, on va envoyer des éclaireurs, des gens, ils vont espionner pour nous la terre. Et ils vont nous dire par quel chemin il faut entrer dans cette terre si on veut la conquérir. Vont nous dire quelles sont les villes qu'on devra affronter, etc. Et mon cher Abbé nous dit, Vayitav Adavar, Vayitav Benai, Adavar, Vaikach Mikem, Shnemasar Anashim, Ishechal la Shavet. La chose m'a bien plu. J'ai pris, mon cher, 12 personnes, un de chaque Shevet. C'est un récit complètement différent. Et après, il va dire, Lo avitem la alot. Vous ne vouliez pas monter en Eretz Israël, dans le verset 26. Vatamru et pi Hashem Elokechem. Et vous êtes rebellés contre la parole d'Hashem, votre Dieu. Vous êtes allés jusqu'à dire, Sinat Hashem otanu, otsianu Israël. Par haine de nous, Hashem nous a sortis d'Égypte. La tête otanu, biyada et mori, lâche mileinu. Pour nous livrer aux mains des Amoréens, pour nous détruire. Etc. Qu'est-ce qui se passe là? Pas du tout le même récit. Alors, en fait, le récit que nous avons, nous, dans Shlach Lecha, c'est ce qui est apparu. Chose. Mais ça veut dire que Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu après que Moshe et porter l'affaire devant Hachem, quand il dit Vaïta Vadavar, il a trouvé bien, mais il l'a proposé à Hachem, il a dit à Hachem. Et Hachem lui dit, moi, je ne te dis pas de le faire. Et en plus, Hachem va leur dire, il va annoncer, ah, ils peuvent le faire, ils vont se casser la figure. Donc Hachem sait que s'ils y vont, ils vont se casser la figure. C'est-à-dire que il y a au départ un manque de confiance en Hachem.
C'est-à-dire qu'au départ, ils savent, les Israéliens savent qu'ils vont se casser la figure.
Non,
Et
Hachem a dit,
on est donc, c'est pas un manque de confiance, là.
il aura,
Oui. Oui.
semble-t-il, ou bien il l'a dit à Moshe, ouais, probablement il l'a dit à Moshe, mais il n'a peut-être pas dit à Moshe de leur dire ça. Moshe sait très bien qu'il va y avoir un problème. Pourquoi est-ce qu'il protège Yoshua? D'accord? Yoshua, il s'appelle pas Yoshua, il s'appelle Hoshea. Et Moshe Rabbeinu lui change son nom. Il met un Yud pour qu'il y ait le nom d'Hachem dans le nom de Yoshua. Il y a trois premières lettres du nom d'Hachem. Et donc, Moshe sait que s'il ne protège pas Yoshua, il va se faire casser la figure ou il va pas tenir le coup, quoi. Bien qu'on puisse tenir le coup, la preuve, c'est Caleb. Le géant dans l'affaire, c'est Caleb. Lui, quand il y a un complot, les dix explorateurs qui vont venir, revenir et qui vont dire il ne faut pas y aller, etc., c'est un complot. Mais quand ils ont comploté, ils n'ont jamais essayé d'entraîner Yoshua avec eux. Lui, il est du côté de Moshe. Ils l'ont mis de côté.
Quand vous dites un complot, ça veut dire
Par
qu'ils se sont
contre,
mis
Caleb,
d'accord.
pardon?
Hein? Quand vous dites un complot, ils se sont mis d'accord avant de faire le rapport
Alors, oui. Oui,
ensemble.
oui.
On est d'accord.
Par contre, Caleb, ils l'ont pris avec eux. Donc, il était dans le coup. Mais comment est-ce qu'il a pu tenir le coup, Caleb? Comment on peut tenir? Il y a 10 chefs de tribu, 10 tzadikim a priori. Ils disent il faut pas y aller. Et on va. Nous, on représente le peuple. On représente 10. Enfin, ils pensent qu'ils sont 11 tribus. Il n'y a pas le choix, non. Bon. Mais à part le choix, on est tous d'accord. Ils pensent comme ça, en tout cas. On est tous d'accord qu'il faut pas y aller. En fait, ce qu'on dit de Caleb, c'est que ce qui lui a permis de tenir le coup, c'est qu'il est allé, on dit comme ça, Ishtatar, il est allé ben disons, prier sur la tombe des Avot. Il s'est rattaché aux Avot. Pourquoi? Parce que la terre, la promesse de la terre, elle vient des Avot. Elle a été faite aux Avot, aux patriarches. Donc il est allé, il s'est mis en quelque sorte, il s'est inspiré. Moi, je suis le descendant des Avot. C'est avec moi que va se réaliser la promesse que Hachem avait faite au Havot. C'est ça qui lui a donné la force de résister. Jusqu'à la dernière minute, ils pensaient ils ont tous pensé qu'il était avec eux, puisque quand ils se sont mis à dire du mal de la terre d'Israël, que tout le monde a pleuré, etc., Caleb, il a réussi, il y avait un murmure, tout le peuple était contre. Et il a réussi à ouvrir, à parler. Mais comment il pouvait parler? Il n'allait pas laisser parler à quelqu'un qui dit le contraire. Alors il a commencé à se marquer, Vayas. Donc, ça veut dire, Caleb, il a commencé en disant, est-ce que Ben Abraham, il nous a fait seulement ça? Donc, ils ont tous pensé qu'il allait continuer à casser du sucre sur Moshe Rabbeinu. Et là, il a réussi à lire une phrase positive. Après, c'est terminé. Après, il ne pouvait plus ouvrir la bouche. Et puis, les deux, ouais, le peuple voulait lapider. Alors, on va voir un peu plus en détail. Quand ils reviennent, ils ont fait ce rapport au début qui était un rapport très positif, mais au verset 28, donc dans Parshat Shelach, verset 28 du chapitre 13, donc au début, ils disent, d'accord, c'est magnifique et tout, ce que tu veux, mais tout ça c'est nul. Ephes, ça veut dire zéro. moderne, etc. Tout ça, ça vaut rien du tout. Ils ont traduit gentiment toutefois. C'est pas FS. Pourquoi? Qui Azama, le peuple qui est là-bas, c'est un peuple très, très, très puissant. Les villes sont fortifiées, sont très grandes. On a même vu des descendants de géants là-bas. Et Amalek est au sud. On a toute liste de choses pour faire peur à tout le monde. Donc là, on dit Caleb, qui a réussi à faire taire le peuple quand il murmurait contre Moïse, et il a dit, Caleb a dit, Vayomer, allez, alors, n'allez, on va monter en Eretz Israël, Ve'yarashnu, et on va hériter de cette terre, qui yachol nuchal, on pourra le faire. On pourra le faire. Et les gens, les autres explorateurs, ils sont dit, en gros, l'onuchallalot, elam, on ne pourra pas monter contre ce peuple, qui chazak hu mimenu, il est plus fort que nous. Et là, il faut s'interroger, qu'est-ce que ça veut dire, il est plus fort que nous? Qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce qu'il donne à penser, en fait, que quoi, que c'est les Bnei Israël qui vont faire la guerre? Est-ce qu'ils n'ont jamais fait la guerre, les Bnei Israël? Ils n'ont jamais fait la guerre tout seuls. Ils n'ont jamais fait la guerre sans que Hachem lutte pour eux, en réalité, comme Moshe leur a dit, Hachem ilachem lachem, c'est Hachem qui va lutter pour vous. Ça veut dire qu'il est plus fort que nous. Ça veut dire que dans leur nous, c'est un nous même avec Hachem. Chazal va encore un peu plus loin, ils disent Chazak ou Mimenu. Mimenu, ça s'écrit même Nun Vav. Même Nun Vav, ça se lit aussi Mimeno. Pas seulement Mimenu. Pas nous, mais que lui. Et le lui en question, c'est Hachem. Donc, ils sont en train de dire, ces peuples qui sont là-bas, sont plus forts qu'Hachem. Hachem ne pourra pas gagner contre eux. Chazak ou Mimenu, Rachidi, dit, clapé malam. Si on peut se permettre de le dire, ils ont dit c'est contre Akodosh Boko, clapé mala. Ils ont dit plus fort que lui, pas que nous. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Donc, c'est les arguments. Et eux écrivent évidemment plus fort que Yoshua et Caleb. Et maintenant, Vayotsiu, Dibat Haaretz, Asher Tavuota, El Bnei Israël, les morts. Et maintenant, ils vont dire du Lashon Hara sur cette terre qu'ils ont explorée. Ils ont dit, Haaretz, Asher Avarnu Va, cette terre par laquelle nous sommes passés, la tour Ota pour l'espionner, Eretz Ochelet Yoshvea Hi. C'est une terre qui mange ses habitants. Ça veut dire qu'il mange ses habitants. Rashi dit, Eretz Ochelet Yoshvea, ils ont dit, Bechol Makom, chez Avarnu, Matsanum, Kovre Metim. Partout où on a passé, Les gens étaient en train d'enterrer dans l'enterrer. Mais en vérité, dit Rashi, Akadosh Baruch Hu asa le Torah, kidei le tirdam ve'evelam, v'lo itnu lev la'elu. Pourquoi Hachem a fait en sorte qu'il y avait un enterrement partout? Parce que quand il y a un enterrement, il y a un brassage de population. Donc ils avaient plus de chances de passer inaperçus. Parce que si tu viens d'un endroit où tout le monde se connaît, l'étranger est tout de suite repéré. Mais s'il y a, comme c'est un enterrement, il y a des gens qui viennent des villages à côté, etc. Donc bon, peut-être qu'il y a plus de chances de passer inaperçus. Mais eux, ils ont interprété ça comme étant un signe que la terre mange ses habitants. Il meurt, tout le monde meurt, on n'arrête pas de mourir. Ça veut dire qu'ils sont dans une situation, quand ils arrivent, partout où ils passent, ça meurt. Alors il y a une interprétation qui est celle qu'ils ont donnée. On peut dire c'est une terre qui bouffe ses habitants. Mais on peut aussi dire, Hachem fait quelque chose pour nous ici. Il nous aide à nous camoufler un peu. Ils ont choisi l'autre lecture. Alors, est-ce que quand on est devant cette situation-là, est-ce qu'il y a une lecture qui est plus vraisemblable, qui semble plus vraie qu'une autre? C'est vrai que si on veut considérer que Hachem n'intervient pas dans l'affaire, alors effectivement, tu peux dire, c'est la terre, elle mange ses habitants. Ça veut dire les gens, ils vivent, ils sont très très grands, mais ils n'arrêtent pas de mourir. C'est-à-dire que au lieu de vivre petit mais vivre longtemps, ils peuvent vivre très grand mais très peu longtemps. L'intégrale est la même, quoi. Mais ça veut déjà dire qu'ils réfléchissent comme si Hachem n'allait pas les aider. Alors on peut dire, peut-être qu'ils ont raison de réfléchir comme ça, parce qu'ils savent que maintenant qu'ils vont entrer en Eretz Israël, ils ne vont plus vivre avec de la manne, avec le Be'eroshel Myriam et avec le Anané Kavod, etc. Il va falloir vivre comme les goyim, sauf qu'on sait que c'est Hachem qui nous aide. Mais il va falloir labourer, il va falloir semer, il va falloir récolter, etc. C'est fini qu'on vous mette quasiment la nourriture dans la bouche. Donc ils peuvent se dire, OK, on va entrer dans un monde où Hachem ne va plus nous aider visiblement. Ce qui va se passer en Eretz Israël, c'est qu'Hachem ne va pas aider aussi visiblement qu'il le faisait dans le désert, mais il va continuer de s'occuper des Bnei Israël. Mais eux, à la limite, ils ont fait comme s'ils ne nous aident pas visiblement, c'est comme s'ils ne nous aidaient pas du tout. Et donc, si pas du tout, alors on va interpréter les choses sans. Parce que pour dire que c'est Hachem, qu'il y a des enterrements pour nous camoufler, ça veut dire qu'Hachem est en train de chambouler le monde, il est en train de faire mourir des gens, etc., pour le clan d'Israël, pour que le clan d'Israël, qui s'en sorte. Quoi. Sinon, ils vont être massacrés par les habitants qui vont voir que vous êtes des espions. Pour la âme, Asher Raïnou, Betocha, Anchemidot, c'est des gens, c'est des géants. Et on a vu là-bas les Néphilim, les Bnei Anak, les Néphilim, Vanéi, Benéinou, les Chagavim. Et nous, quand On se regardait, on les regardait eux, on avait l'impression que on était les sauterelles par rapport à des géants. Bon, ça, c'est peut-être vrai, c'est peut-être le sentiment qu'ils avaient. On voit bien que les choses étaient en démesure, puisqu'ils ramènent des fruits dont on n'a jamais vu la couleur en Eretz Israël. Donc, quelque part, à ce moment-là, en tout cas, la terre, c'était une terre qui était à la fois très puissante et éventuellement qui peut très bien manger ses habitants. Ou alors, il faut dire que c'est Hachem qui tire toutes les ficelles à ce moment-là. Et donc, bon, ils ont choisi. Et après, ils disent quelque chose là qui est impossible. Ils disent, Vechenaïnu Benehem. Et eux aussi, ils nous voyaient comme des sauterelles. Comment ils le savent? Comment les goïms les voyaient? Alors, on pourrait s'en sortir en disant, j'ai entendu les goïms dire, il y a beaucoup de sauterelles. D'accord. Et du coup, avec ce tableau-là, tout le monde a pleuré. Et ensuite, ils se sont mis à murmurer contre Moshe Aaron. Et tout le monde leur a dit, si seulement on était mort en Égypte, si seulement on était mort dans le désert, etc., plutôt que nous amener là, ici, on va périr par l'épée, nos femmes et nos enfants vont être rendus en esclavage. Tov lanu shuv Mitzrayim. Il vaut mieux pour nous que nous retournions en Égypte. Vayomru ish el achiv. Chacun a dit à l'autre, il a dit, Nitna Roche, Vena Shuva Mitzrayim. On va se donner un chef et on va retourner en Égypte. Alors sur ce chef, certains disent, c'est une idole. Ou bien ils vont nommer quelqu'un, ils vont l'idolâtrer. Et du coup, ici, à ce moment-là, Moshe Aaron tombe face contre terre. Et là, il y a Yoshua et Caleb, qui sont les deux explorateurs. Et eux, ils ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil, d'entendre des choses pareilles. Ils ont dit, Yoshua et Caleb, ils ont dit, la terre que nous avons, par laquelle nous sommes passés, Tova haaretz me'od me'od. Ce pays, cette terre est bonne, deux fois bonne. Et ils ont ajouté, Im chafetz banu Hashem, si Hashem veut de nous, en quelque sorte. Il nous a amenés ici devant cette terre. Et nous l'a donné. C'est une terre où coule le miel. Arba Hashem, altimrodu, mais sur moi. Ne vous révoltez pas contre Hashem. Et ne craignez rien. Ces peuples-là, ils ont déjà perdu toute confiance en eux, ils savent très bien qu'ils ont perdu contre nous. Hachem est avec nous, ne craignez rien. Vayomru kol ha'eda lirgom otam ba'avanim. Et toute la communauté ils ont dit, on va les lapider, on va les tuer, on va les lapider. Ils n'ont pas réussi parce que au kvod Hachem, nira be'ohel moed, El Kol Israël. Mais Hachem s'est manifesté, la gloire d'Hachem s'est manifestée, donc ils n'ont pas pu les lapider. Rachid dit que c'est Caleb et Yoshua qui voulaient lapider. À un moment donné, quand je lisais, j'avais l'impression que c'est peut-être aussi Moshe Aaron qui voulait lapider.
J'avais une question au début. C'est que si Moshe Aaron savait dès le départ que ça les ferait. Alors, pourquoi il l'a fait finalement? Parce que, alors, peut-être qu'il y avait une crainte de l'habitation. C'est un peu comme avec Aaron.
Alors, il va y avoir une explication. Si c'est dans. Ah oui. Si vous allez sur le. Retournez dans le Barim, la fameuse page 1000 là-bas. Ouais, comme mon cher Abbé nous dit, Vaïtav, Be'enaï, Adabar, ce que les Bnei Israël ont proposé, ça m'a plu, dit Rachid. Dit mon cher Abbé. Rachid commente, il dit, Be'enaï, c'est-à-dire à mes yeux, c'était bien. Velo Be'enaï à ma com. Donc quand il fait le bilan, il dit, moi ça m'a plu, mais Hachem, il a pas, il voulait pas. Alors, Rashi rapporte, il pose la question. Vim bene Moshe Ayatov, lama amara. Pourquoi il leur fait des remontrances si lui-même il a pensé que c'était bien? Comment il peut leur faire des remontrances? Toi-même, tu pensais que c'était une bonne chose. Maintenant, après, tu viens de dire, on n'aurait pas dû, etc. Mais toi-même, tu étais convaincu que c'était bien. Alors, il y a une explication. Un machal. Machal, le Adam, chez Omer, le Chavero. Le machal, il est comme ça. Ah, dit Abbé, vends-moi ton âne, celui-là. Il demande, t'es d'accord? Il dit, oui, d'accord. Et il lui dit, est-ce que je peux l'essayer d'abord? Essayer de voir comment il se comporte. Il dit, oui. Il dit, est-ce que je peux l'essayer aussi dans les montagnes, etc., pour voir comment il se comporte dans les montagnes? Il a dit, oui. Quand l'acheteur a vu que le vendeur était d'accord avec tout, il était d'accord, tu peux aller l'essayer, il s'est dit, le type, il est complètement sûr de lui. Ça veut dire, je n'ai même pas besoin d'aller regarder, puisque si il me permet de l'essayer dans toutes les circonstances, ça veut dire qu'il est absolument sûr qu'il n'y a aucun problème. Et donc, je n'ai pas besoin de. Du coup, je lui dis, prends ton argent, je te paye, c'est tout, je n'ai pas besoin d'essayer. Et là, Afani, dit mon cher Rabbeinu, c'est-à-dire, j'étais d'accord avec vous. Parce que, si jamais je dis que j'étais pas d'accord, alors vous vous direz, ah, il veut même pas qu'on aille voir à l'avance. Ça veut dire, c'est vraiment très mauvais ce qu'il vous propose. C'est un piège, quoi. Alors, à la limite, j'avais compté que si je dis oui, ben vous allez faire comme l'acheteur là. Du moins, on n'a pas besoin d'envoyer puisque. Il est tellement sûr, mon cher, puisqu'il est prêt à nous envoyer de espionner. Seulement, vous n'avez pas fait comme le vendeur. Même si moi j'ai dit oui, vous avez quand même voulu aller y voir par vous-même. Et du coup, j'ai pris parmi vous, parmi les plus clairs, les plus faciles, ceux qui méritent d'être choisis parmi vous, Voilà, c'est bon, il n'y avait pas la tribu de Lévi, etc. Bon. Donc là, on voit que mon cher Rabbeinu, il s'explique, mais est-ce que c'est une explication d'après coup? Parce que du coup, puisque eux, ils ne disent pas, ben, on n'a pas besoin d'aller voir si tu es tellement confiant, c'est que il n'y a rien à voir, c'est sûr que c'est bon. Et vous, eux, ils ont demandé, oh, bon. Et du coup, c'est une drôle de situation. Hachem dit, moi, je te dis pas de le faire, mais c'est Hachem qui prend les. C'est lui qui les nomme. C'est Hachem qui désigne les explorateurs. Donc, et même, c'est présenté comme si, puisque tu veux, alors moi, je te l'ordonne, quelque part. Pourquoi il l'ordonne? C'est compliqué. Il sait que ça veut dire, probablement, il faut comprendre comme ça que, à cause de vous, il a compris, les Bnei Israël ne sont pas au niveau d'entrée en Eretz Israël, maintenant. Visiblement, ils ne sont pas à ce niveau-là. Et donc, il faut pas qu'ils entrent. Mais pour qu'ils n'entrent pas, ben, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas entrer, quoi. Qu'ils soient eux d'accord de ne pas entrer. Effectivement, il les laisse faire, il les laisse se piéger dans l'interprétation de tout ce qu'ils voient, etc. Parce que ce qui se passe, c'est que mon cher Abinou, l'ordre qu'il leur a donné, c'était un ordre de ramener des informations. Ramène-nous des informations sur le pays en question, sur le par quel côté il faut envahir si on veut conquérir, etc. Et eux, ils ne se sont pas contentés d'informations. Ils ont jugé la chose. Et ils n'ont jamais été investis de la mission de juger. Ils devaient donner des informations. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune information. Il n'y a que des commentaires. Tous les gens qui expliquent quoi que ce soit, c'est toujours pour obtenir, pas du tout pour donner l'information, mais c'est un plaidoyer pro domo à chaque fois. Voilà, j'amène des arguments pour ma théorie du monde, pour ma façon de mon idéologie, etc. Il n'y a plus de. Il n'y a pas d'information. Tous les journaux sont les journaux de gauche, de droite, etc. Les radios sont de gauche, de droite, la télé, etc. Il n'y a plus rien. Et pratiquement dans le monde entier, c'est comme ça. C'est un grand problème. C'est-à-dire que les informations, même aujourd'hui, les informations scientifiques deviennent, elles sont présentées d'une manière que ça fortifie ce camp-là plutôt que cet autre camp. Et de ce qu'ils ont fait. On leur a pas demandé leur avis. On leur a pas demandé s'il faut y aller ou pas. On leur a demandé de nous dire comment est-ce que la terre est grasse, est-ce qu'elle est sèche, est-ce qu'elle est riche, est-ce que c'est fortifié, etc. C'est tout. Après, nous, on va, Moshe, en quelque sorte, OK, apportez-moi les informations et je vais vous expliquer les informations. Mais ils sont venus et ils ont expliqué eux. Ils ne donnent pas l'information. Ils donnent l'information de telle sorte que c'est tout de suite, j'ai dit. Voilà, il y a un côté, il faut toujours dire un peu de vrai, parce que s'il n'y a pas de MF, le chèque complet ne tient pas. Donc le MF, c'est la Terre, elle est magnifique, mais FS, ce n'est pas pour nous. On ne peut pas y arriver. pas pour nous, et au contraire, c'est un espèce de piège dans lequel on est tombé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors Hachem dit à Moshe, parle très durement sur ce peuple, non? Hachem dit à Moshe, Adana amazé, jusqu'à quand ce peuple va m'irriter? Jusqu'à quand ils n'auront pas confiance en moi? Après tout ce que j'ai fait pour eux, tous les miracles que je leur ai montrés. Alors, Akenu Badever, je vais le frapper de la peste. Enfin, Dever, c'est quasiment une peste. Vorichena. Effectivement, je ferai, c'est nouveau cette idée, je vais faire de toi, mon cher, un goy gadol ve'atsum mimenu. Un peuple bien plus grand, bien plus puissant que lui. Et alors, ici maintenant, comment il réagit, mon cher Rabbeinu? Ouais, mon cher Rabbeinu qui défend toujours le clan d'Israël, mais comment défendre le clan d'Israël? Comment défendre le clan d'Israël après ce qu'Hachem a dit, c'est insupportable, j'en peux plus. Je vais commencer, j'arrête avec ce peuple, je commence avec toi, un nouveau peuple. Alors Moshe dit, ouais, mais si tu les détruis, qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Les Égyptiens, ils vont dire, le Shamu Mitzrayim, qui est l'Ita, de Kochacha, ces Égyptiens, d'où tu as sorti ton peuple, là, ils étaient. Que ils vont dire à tout le monde, Chamou, écoutez, qui atta Hashem bekerev ha'am azeh, ha'ain be'ain nira, atta Hashem va'anankar, omed aleihem, be'amcha. Et maintenant, donc, tu t'es vraiment complètement investi avec eux. D'accord? Tout le monde voit que c'est toi qui les dirige et tout. Et maintenant, Vemata et Tamazé, tu vas tous les tuer comme un seul homme. Goyim, ah, les Goyim, ils vont se délecté avec ça. Asher Shamu et Shimacha, les morts, tous les goïms qui ont entendu, en fait, ont parlé de comment on a entendu ta renommée, etc., tout ce que tu as fait pour eux, et ils vont dire, comment ça se fait qu'il les a tués maintenant? Ben, ils vont dire, c'est parce que Mibilti Yocholet Hashem la vie ta amazé. Et la haresse asher nishba lahem, va yishratem bamidbar. Dans l'impossibilité de les faire entrer en terre d'Israël comme il l'avait prévu, comme il ne peut pas réaliser les choses, ben il va les tuer. Donc, tu as tué ce peuple parce que tu es incapable d'accomplir la promesse que tu as faite. Ça, en d'autres termes, qu'est-ce que mon cher Abbé nous dit à Hachem? Tu sais que si tu tues ce peuple-là, tu fais un énorme cri de Hachem. C'est ce qu'il lui dit. Alors, Hachem, mon cher Abbé lui dit autre chose. Il dit, et maintenant, il faut faire le contraire. Yigdal na koach Hachem. Ils ont traduit que grandisse la force de mon Seigneur, comme tu l'as affirmé en disant que Hachem, ou les Erech HaPaim, Rav Chesed, ונקה, לא ינקה, פוקד עבור על בנים ועל ריבעים, ועל ריבעים, על 30 שלישים וריבעים. סלח נא לעוון העם הזה, פרדון על ספק, כגודל חסדך. Comment tu peux leur pardonner en quelque sorte? Comment c'est possible? Alors pardonne. Pardonne. Comme tu, jusqu'à maintenant, tu les as portés, tu leur as toujours pardonné. Depuis l'Égypte jusqu'à ici. Et Hachem a, et Moshe Rabbeinu a gagné. Hachem a dit, Salachti Ibarecha. J'ai pardonné comme tu l'as demandé, comme tu l'as dit. Mais d'accord. Je pardonne, je ne les détruis pas. Chayani, imale kvod Hashem et kol haaretz, la gloire d'Hashem va remplir le monde, la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Kol haanashim haroim et kvodi, vet ototai, asher asiti b'Mitzrayim b'Amidbar, v'inasu oti ze eser pe'amim, v'lo shamo b'koli. Tous ces gens-là qui ont vu ma gloire, ils ont vu mes signes, ce que j'ai fait en Égypte, dans le désert, et qui m'ont éprouvé 10 fois sans arrêt, ils me mettent en épreuve, à l'épreuve, ils n'ont jamais écouté ma voix. Alors je jure, en fait. J'ai dit, Raï. Comment ça veut dire? Im yirua et haaretz asher nishbati lavotam, si jamais s'ils voient, je jure, donc jamais ils verront la terre que j'ai promise à leurs ancêtres, tous ceux qui m'ont irrité, kol menatzai. Irrité, c'est Yatsu, c'est prophète. Enfin, dis quoi, c'est moi ouais, qui m'ont fait du mal, quoi, qui m'ont irrité. Ils ne verront pas cette terre. Ces gens-là, ils vont. Sauf Avdi Kalev, lui, il avait un autre esprit. Et lui, il m'a suivi avec intégrité, en fait. C'est intéressant parce que ici, il ne parle que de Caleb. Je crois aussi, bien sûr. Mais il parle de Caleb parce qu'on peut dire quelque chose de Caleb. Caleb, il a fait un boulot gigantesque. Joshua, il a fait aucun boulot. Lui, il avait une armure dessinée par un grand couturier, Moshe Rabbeinu. Et on dit, là-bas, il y avait effectivement Amalek et Canaan. Ben, voilà, ils sont là-bas, dans la vallée. Contournez-les. Alors, là, à la limite, on a l'impression que tout a déjà été dit. Mais, en fait, il a annoncé à Moshe, mais maintenant, concrètement, il parle à Moshe, à Aaron, et il dit, Ad matai la eda hara'a zot, asher hema malinim alai. Voilà, c'est la première occurrence du mot Eda. Le mot communauté, moi je trouve qu'on devrait traduire par communauté témoignante à cause du Ein Dalet au début, dans Eda, qui aide ces témoins. Mais voilà, la Eda, elle est d'abord Eda Ra'a, avant d'être Adat Yeshurun, ou comme ça, comme on dit à Kippour. Je vais faire ce que j'ai dit. Dans le désert, ils vont tous mourir, là. Tous ces hommes adultes, qui étaient adultes au moment de la sortie d'Égypte, et voilà, tous ces gens-là, ils vont mourir. Tous ces hommes, les femmes ne meurent pas. Ça dépend, évidemment. On a l'impression ici qu'ils meurent à cause de. Ils meurent à cause de ce qu'ils ont fait maintenant. D'après le Gaon de Vilna, ils meurent pas pour ça. Ils meurent parce que le sursis qu'ils avaient, Moshe avait obtenu après le veau d'or, le sursis est tombé. Parce que ici, si on dit qu'ils meurent de ce qui s'est passé là, on ne comprend pas pourquoi les femmes ne meurent pas. Tandis que si tu dis que ça vient du veau d'or, les femmes, elles n'ont pas participé au veau d'or. On comprend pourquoi elles ne meurent pas. Autrement, pourquoi elles ne meurent pas? Elles ont pleuré avec tout le monde, non? Alors, Akadosh Baruch Hu, bien que il ait dit qu'ils vont être punis et qu'ils vont se balader dans le désert 40 ans, néanmoins, dans le chapitre Tetzvav, par exemple, à Chichi, dans la sixième montée, à la page 862, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. D'abord, Israël, vers Marta Lehem, me voachem el haaretz, asher ani mevi etchem shama. Tout de suite, Hachem va leur donner maintenant des lois applicables dans 40 ans. Il lui donne maintenant les lois. Vaya, bachalchem ilechem haaretz, tarimu trouma l'Hachem, on va faire un prélèvement de trouma. Non, en vérité, ici, il ne s'agit pas vraiment de Trouma, il s'agit de la Challah. C'est la mitzvah de prélever la Challah. La Challah est appelée Trouma, mais ce n'est pas de la Trouma, pas simple, parce que ça ne se donne pas au Cohen. En vérité, ce n'est pas vrai, ça se donne au Cohen aussi. Mais c'est présenté, « Reshit harisotechem, Challah tarimu Trouma » Cette challah, vous la prélèverez en prélèvement, que Troumat Goren, vous le prélèverez comme vous prélevez la Trouma sur le blé. Et Tarimota. Mereshit Arisotechem, dites-nous l'Hachem, Trouma le Dorotechem. Les prémices de vos pâtes, les pâtes à pain que vous êtes en train de faire, vous en donnerez un prélèvement pour Hachem, pour Mal Dorotechem. Ça veut dire vous le donnez à Hachem. Rachid fait remarquer ici, parce que c'est pas souligné quand j'ai lu, donc c'est pas Yadaber Hashem El Moshe les morts, Yadaber El Béné Israël, Vermarta Alehem, Bevoachem El Haaretz. Lorsque vous viendrez, quand vous arriverez, disons, dans le pays. Et Rachid fait remarquer sur Bevoachem, Rachid dit, Meshuna yazu mikol biyot sheba Torah. Toujours dans la Torah, quand on parle de arriver, vous allez entrer, etc., c'est toujours dit, ou bien kitavo ou kitavo. Lorsque vous arriverez, lorsque tu viendras, etc. Et donc c'est pour ça que toutes les biyot, toutes les venues en Eretz Israël, on les compare toujours les unes aux autres parce que c'est toujours la même forme grammaticale. Vekivan sheperat lecha ha'katuv ba'achat mehen she'eina ela la'achar yerusha v'yeshiva af kulan ken. Et donc, on va dire que comme dans un des cas, ce qui est dit, c'est que vous allez pouvoir le faire, mais il ne faut pas oublier que quand les Bnei Israël arrivent en Eretz Israël, ils font 7 ans de guerre, et ensuite, pendant 7 ans, ils vont partager la terre entre les différentes tribus. Donc, en vérité, il y a 14 ans, entre le moment où ils arrivent, ils entrent en Eretz Israël, où ils font rien, ils peuvent rien faire parce que c'est ou la guerre ou bien on est dans le partage. C'est intéressant qu'on prend autant de terre de temps pour faire la guerre que pour partager. C'est-à-dire, faire la guerre contre les ennemis, ça prend autant de temps que de régler la paix entre les hommes. Donc, Aval, Zou, Neymar, Ba, Bevoachem, ici c'est marqué, dès que vous arriverez, Miché, Nichnesu, Ba, Veachlou, Milchamar, Yitraïvou, Bechala. Alors, la Chala, c'est un autre truc. La Chala, dès qu'ils arrivent, ils ont l'obligation de la Chala. Les autres, la Trouma, le Maaser, ça se viendra après 14 ans.